hammer you Magdalene.
Oh, Emma, oh. You turn around, dig a hole in the ground. Oh, Emma, oh.
Ils arrivent avec ses arts et ses mœurs à l'île de France. On les débarque tout nus avec un chiffon autour des reins. On met les hommes d'un côté et les femmes à part, avec leurs petits-enfants qui se pressent de frayeur contre leur mère. L'habitant les visite partout et achète ceux qui conviennent. Les frères, les sœurs, les amis, les amants sont séparés. Ils se font leurs adieux en pleurant et partent pour l'habitation. Quelquefois, ils se désespèrent, ils s'imaginent que les Blancs les vont manger, qu'ils font du vin rouge avec leur sang et de la poudre à canon avec leurs os. Voilà comme on les traite. Au point du jour, trois coups de fouet sont le signal qui les appelle à l'ouvrage. Chacun se rend avec sa pioche dans les plantations où ils travaillent, presque nus, à l'ardeur du soleil. On leur donne pour nourriture du maïs broyé, cuit à l'eau, ou des pains de manioc. Pour habiller un morceau de toile, à la moindre négligence, on les attache par les pieds et par les mains sur une échelle. Le commandeur, armé d'un fouet de poste, leur donne sur le derrière nu 50, 100 et jusqu'à 200 coups. Chaque coup enlève une portion de peau. Ensuite, on détache le misérable, tout sanglant. On lui met au cou un collier de fer à trois pointes et on le ramène au travail. Il y en a qui sont plus d'un mois avant d'être en état de s'asseoir. Les femmes sont punies de la même manière. Le soir, de retour dans leur case, on les fait prier Dieu pour la prospérité de leur maître. Avant de se coucher, il leur souhaite une bonne nuit. Il y a une loi faite en leur faveur, appelée le Code Noir. Cette loi favorable ordonne qu'à chaque punition, ils ne recevront pas plus de 30 coups, qu'ils ne travailleront point le dimanche, qu'on leur donnera de la viande toutes les semaines, des chemises tous les ans. Mais on ne suit point la loi.
Observation de Bernardin de Saint-Pierre, dans Voyage à l'île de France, à l'île de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, 1769. Ce texte est un fragment de ce que pouvait être la vie des personnes esclavisées dans les colonies françaises. Édouard Glissant écrit « Les colons ont laissé les vestiges qu'ils ont voulu. Peu de récits d'esclaves sont consultables, et en particulier en France. Et la plupart des autobiographies de personnes esclavisées sont le fait d'affranchis américains. Que sait-on vraiment de la vie des esclaves ? De ce monde où votre enfant peut disparaître sans que vous ne sachiez jamais ce qui lui est arrivé. Imaginez le traumatisme qui en découle pour les personnes concernées et les générations suivantes. De ces histoires personnelles et tragiques, on ne sait que peu de choses, sinon des vérités partielles. L'Empire français colonial n'apprend à ses esclaves ni à lire, ni à écrire. Leur parole est tue, oubliée. On l'a vu dans le premier épisode de ce podcast, l'esclavage français est surtout raconté du côté des colons, puis des libérateurs. À quoi ressemblait le quotidien de ces personnes arrachées à leur terre natale pour être envoyées à l'autre bout du monde? Quel drame les attendait dans les colonies françaises? Les Mémoires vives, épisode 2, fragments de vie d'esclaves. Pour entendre la voix des esclaves, une source est particulièrement intéressante, celle des affaires judiciaires, c'est-à-dire des procès intentés aux maîtres par les esclaves ou aux esclaves par les maîtres. En mars 2005, les archives concernant l'affaire Fursy sont mises aux enchères à l'hôtel Drouot. Elles relatent le plus long procès jamais intenté par un esclave à son maître, 30 ans avant l'abolition de 1848. Dans les documents, des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience, des plaidoiries. C'est poussiéreux, mal ficelé et mal rangé, explique le journaliste Mohamed Aïssaoui dans son ouvrage « L'affaire de l'esclave Fursy ». Il y raconte que ses archives n'éclairent que très partiellement la personnalité de Fursy et qu'il a éprouvé le désir fort, nécessaire et impérieux de le retrouver, de le comprendre et de l'imaginer aussi. Parmi les documents qu'il a réunis, on trouve cette lettre de Fursy. Elle est destinée à l'ancien procureur général de l'île Bourbon qui a accepté d'aider l'esclave à entamer une procédure judiciaire contre son maître.
Vous le savez plus qu'un autre, monsieur. Si j'avais, et si j'ai encore des droits à réclamer ma liberté, vous m'encourageâtes dans mes demandes, vous me protégiez. J'allais respirer l'air de la liberté, vous partîtes, je suis esclave. On n'a pas voulu me laisser le droit de choisir mon avocat, et en voyant celui que la cour m'a désigné, celui de mon adversaire, je devinais mon sort. C'est donc à vous que je m'adresse comme au seul homme qui daignait s'intéresser à moi. C'est depuis l'île de Maurice que je vous fais entendre ma voix pour vous demander si, fils d'une indienne libre qui avait séjourné en France, je puis être compté au nombre des esclaves sans qu'on viole toutes les lois, toutes les institutions qui font la sauvegarde du pays que vous habitez, dont je suis moi-même, car je suis né d'un colon français et je suis fils d'un Français de naissance. En attendant une réponse, que je demande non à votre bonté, que je connais bien grande, mais à votre justice, permettez à un homme, dans les fers de la servitude que vous seul pouvez faire tomber, de vous assurer de sa respectueuse et éternelle reconnaissance, Fursy.
En 1843, 26 ans après ses premières démarches et 5 ans avant l'abolition de l'esclavage, Fursy est déclaré libre. Il n'aura cessé de vouloir faire entendre son histoire, son point de vue, ce que transmet parfaitement le journaliste Mohamed Aïssaoui dans un ouvrage en langue française aussi rare que précieux. Faire entendre les paroles d'esclaves français, c'est tout le but de l'ouvrage « Libres et sans faire ». Tout commence lorsque Gilda Confier, documentaliste guadeloupéenne, présente des documents d'archives d'un procès intenté par des esclaves contre les traitements inhumains de leur maître à son ami historien, Frédéric Régent. Avec l'historien Bruno Maillard, ils décident tous les trois de publier un ouvrage dans lequel ils restituent la parole de personnes esclavisées d'après les archives de différents procès.
On a étudié deux types de procès. Premier type de procès, ce sont les esclaves qui portent plainte contre leur maître pour des traitements barbares et inhumains.
Frédéric Régent, maître de conférences et directeur de recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine.
Le deuxième type de procès, ce sont des esclaves qui sont poursuivis en justice pour vol, pour meurtre, pour violence, pour fuite. Forcément, dans le dialogue, il y a un moment sur le fait qui est reproché, le crime ou le délit qui est reproché, c'est une vérité qui s'oppose à une autre. C'est la parole du maître qui s'oppose à la parole de l'esclave. C'est la parole du juge qui s'oppose à la parole de l'esclave. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas du tout placé dans le cadre de l'affaire judiciaire en elle-même, mais dans le cadre de la recherche d'éléments de vie quotidienne sur les déplacements des esclaves, sur leurs addictions, par exemple l'alcoolisme, sur les violences qu'ils subissent, et puis les relations amoureuses qu'ils peuvent avoir, leur appréhension de la mort. L'ensemble de ces éléments ont été évoqués dans l'ouvrage.
La valeur moyenne d'un noir dans la force de l'âge est attachée à la culture, un noir de pioche, était de 1500 à 2000 francs. On estimait sa journée de travail à 1,50 francs. Il recevait 975 grammes de riz, ou 1 kg de maïs, ou 2 kg de manioc pour sa nourriture quotidienne, cela valait 30 centimes. Il s'habillait avec une chemise, un pantalon de toile bleue, ou une jupe de même étoffe. Il commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait à 8 heures, dîner à midi et souper à 19 heures. La durée totale des repas était fixée à 2 heures. Les Noirs prennent peu le sommeil. À Bourbon, la vie est uniforme. Il n'y a guère plus de différence entre les jours qu'entre les saisons. Cette monotonie d'existence n'est pas contraire à la santé, mais elle donne le malaise de l'ennui.
Extrait de l'Atlas national Mijon, partie concernant l'île Bourbon, notice rédigée par Ernest Poiré, 1842.
Ce qui m'a le plus marqué, déjà, c'est la procédure en elle-même.
Frédéric Régent.
Même si parfois la sentence du procès est biaisée, hein, avec des maîtres dont on peut être convaincu qu'ils ont pratiqué des traitements inhumains, mais voilà, il y a une procédure, il y a des avocats, donc, et puis, bah voilà, ces esclaves qui parlent. Alors voilà, on a tout type de témoignages. On a l'esclave résigné, abattu, qui tremble, qui est décrit comme ça dans la source. Et puis certains esclaves qui s'affirment, qui défendent leur humanité, leur personnalité. Aussi, bah, des esclaves qui sont au service de leur maître, comme les commandeurs, dont certains abusent du pouvoir qui leur est conféré par leur maître. Enfin voilà, c'est vraiment la complexité de cette société. Puis ce que l'on voit aussi, c'est que les esclaves ont faim. Ils se plaignent souvent de ne pas être nourris. Beaucoup d'affaires sont des vols de poules, de canards, des vols d'aliments. Aussi, bah oui, l'extrême violence. Parfois, je pensais que des fois dans les romans, les gens exagéraient, mais finalement, quand on voit ces sources, c'est pire que tout. C'est là où on voit à quel degré de perversité l'humanité peut parvenir. Et donc, lorsque une personne a un pouvoir qui, en théorie, est limité, mais en pratique est illimité, peut faire aux autres, c'est abominable.
Si des esclaves sont poursuivis pour marronnage ou vol, il arrive que parfois, les maîtres passent eux aussi devant la justice pour mauvais traitement envers leurs esclaves. Vous allez entendre une audition devant la chambre correctionnelle de la cour royale de Basse-Terre, en Guadeloupe. Celle du commandeur Louis, dont la mission était de faire régner l'ordre et d'exécuter les châtiments corporels au nom de son maître, Monsieur Valentin, et d'Adeline, qui témoigne des punitions particulièrement cruelles pratiquées sur son enfant Réville. Ce qui se joue ici, c'est la banalité de la violence exercée par Louis, à qui il paraît normal de châtier des enfants.
Louis, avez-vous quelquefois châtié Réville ?
Oh oui, très souvent. Réville est un méchant petit sujet. Il vole des ignames, des bananes, des cabris. Oh oui, j'ai bien piqué, j'ai bien fouetté. Voyez-vous, monsieur, quand les nègres sont petits et qu'ils font des méchancetés, il faut bien les piquer pour leur empêcher de devenir de mauvais sujets. Réville, je l'ai piqué ferme, le petit coquin. Il cassait des cannes. Je lui ai déclaré que s'il continuait, je lui ferais manger des cochonneries. Je comptais lui en faire manger, pour bien lui faire sentir qu'il faisait mal.
Monsieur, c'était devant la porte de la sucrerie pour la première fois. Car la seconde fois, je crois que c'était près de la chaudière à Rome. Louis, d'après ce que j'ai vu, a fait deux fois devant moi manger de la merde à mon garçon. Il le battait même, pour le forcer à en manger. Il l'avait amarré à une échelle.
C'est faux! Jamais je n'ai amarré votre garçon. Oui, oui, je l'ai piqué. Bien piqué, fouetté. Mais parce qu'il l'avait mérité. Parce qu'il faut corriger les mauvais sujets. Quand je l'ai piqué, je ne l'ai pas amarré à l'échelle. Je l'ai seulement amarré par terre, à deux piquets.
Victor Schœlcher, député de la Martinique, puis de la Guadeloupe, a agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage. Il a aussi écrit l'ouvrage « Histoire de l'esclavage » dans lequel on peut lire
« Le fouet est partie intégrante du régime colonial. Le fouet en est l'agent principal. Le fouet en est l'âme. Le fouet est la cloche des habitations. Il annonce le moment du réveil et celui de la retraite. Il marque l'heure de la tâche. Le fouet encore marque l'heure du repos. Et c'est au son du fouet qui punit les coupables qu'on rassemble soir et matin le peuple d'une habitation pour la prière. Le jour de la mort est le seul où le nègre goûte à l'oubli de la vie sans réveil du fouet. Le fouet, en un mot, est l'expression du travail aux Antilles. Si l'on voulait symboliser les colonies telles qu'elles sont encore, il faudrait mettre en faisceau une canne à sucre avec un fouet de commandeur. »
Les principes du Code noir permettent aux propriétaires de faire ce qu'ils veulent de leurs esclaves. Les forcer à travailler, les châtier, les tuer. Les personnes esclavisées ne sont plus que des objets offerts au désir des maîtres. Hommes, femmes, enfants, tous peuvent être victimes de violences sexuelles. Une soumission lisible dans le choix des prénoms attribués par les maîtres. Thérèse Amourette, Cupidon, Désir. Lucille, victime des violences de Douillard Mahaudière, affaire jugée en 1841.
Un jour, il me fit arrêter sans aucun motif. « Va malheureuse, va pourrir au cachot !» me dit-il. Et je fus enfermée, le pied gauche et les deux mains passées dans un unique anneau de fer. Ma main gauche était superposée au pied gauche de façon à ne pouvoir s'en écarter. Dès le premier jour, la douleur fut si forte qu'à mes cris, on vint me tirer le fer de la main droite. Et on ne me donnait qu'une nourriture insuffisante. L'eau, je n'en recevais qu'une bouteille par jour. De toute façon, privée d'air et de clarté, la souffrance repoussait le sommeil et l'appétit. Je ne respirais que lorsqu'on m'ouvrait le cachot, ce qui n'arrivait qu'une fois toutes les 24 heures, lorsqu'on apportait ma nourriture. Sans le secours de mes enfants, on m'aurait laissée dans les ordures. J'étais couverte de vermine. L'amaigrissement de ma main, enchaînée, me permit un jour de la retirer de l'anneau qui la fixait. Mon maître l'ayant appris, fit venir un charron qui resserra mes fers. Je restais 22 mois enfermée. Quand on vint me délivrer, mes yeux ne purent supporter la lumière. Mes jambes refusaient de me porter. L'air oppressait ma poitrine et je fus prise de vomissements.
Soulignons que le cachot en question mesure 1,95 m de long, 1,15 m de large et 1,08 m de haut. Qu'est-ce que ça change d'entendre ces voix ?
Eh bien, ça personnifie l'esclave.
Frédéric Régent.
Et par ces voix, eh bien, on a des femmes, on a des hommes, on a des enfants, on a des vieillards. Bon, je sais qu'il y a eu des initiatives prises avec des classes qui ont utilisé cet ouvrage pour comprendre un peu mieux ce qu'était l'esclavage. On sort du mythe, c'est-à-dire voilà, le mythe de l'esclave marron ou l'esclave révolté. Ou ça nous fait comprendre aussi sur nous ce que nous sommes. Bah voilà, on n'est pas tous des héros, on n'est pas tous des surhommes, et ça nous montre voilà des figures ordinaires de l'esclavage qui étaient les figures majoritaires de ces sociétés. Et puis ça nous montre aussi, bah voilà, un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités et un usage parcimonieux de ce pouvoir.
Cette vie infernale commence souvent par un arrachement à la terre et par une déportation dans des conditions abominables. Ce sont près de 1800 expéditions qui sont parties de Nantes, d'abord pour l'Afrique, puis vers les colonies. Parmi les navires employés, on trouve la Marie Séraphique, dont les archives sont riches d'enseignements.
Ce qui change et ce qui rend ce bateau iconique, finalement, c'est que les armateurs, quand ils terminent une campagne, et notamment pour leurs investisseurs, ils font des tableaux de compte, un bilan de la campagne négrière.
Bertrand Guillet, directeur du château des Ducs de Bretagne et du musée d'histoire de Nantes, travaille depuis 30 ans sur les archives de ce navire.
Et c'est ce que nous voyons sur les documents d'archives que nous avons sur la Marie Séraphique. C'est-à-dire dans la partie inférieure, on a bien ce tableau bilan de l'opération. Mais la grande originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans aucune autre description d'une campagne négrière, c'est que la campagne a fait l'objet de représentations. C'est-à-dire on a dessiné finalement ce qui s'est déroulé durant cette campagne négrière. Et les dessins sont évidemment exceptionnels, puisque à l'époque, personne ne représentait finalement le commerce de la traite atlantique. Et puis surtout, ce qui est fondamental, c'est que c'est une description par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire par les négriers eux-mêmes qui ont décrit techniquement comment ça se passe. Et puis surtout, le document le plus important, c'est la description de l'entrepont, le fameux entrepont négrier, où on voit tous les captifs entassés, d'un côté les hommes, une cloison de séparation, de l'autre côté les femmes. Et effectivement, on voit dans ce document terrible, ce qu'on appelle, nous historiens de la traite, le taux d'entassement d'un navire négrier, ou comment finalement les capitaines négriers optimisaient un espace extrêmement restreint pour pouvoir mettre le plus de captifs possible dans une relative sécurité sanitaire. La Marie Séraphique est un navire faisant à peu près 150 tonneaux. L'entrepont fait grosso modo 100 mètres carrés. Dans ces 100 mètres carrés, il va falloir mettre à peu près entre 310 et 340 captifs. Donc le capitaine, pour réussir ce taux d'entassement, va demander au charpentier de bord de réaliser ce qu'on appelle des échafauds, c'est-à-dire des étagères à mi-hauteur. Imaginez que l'entrepont d'un navire négrier, c'est 1,40 m. Hein. Donc à mi-hauteur, pour pouvoir mettre des hommes directement sur le plancher, et sur ces étagères qu'on appelle les échafauds, pour augmenter ce taux d'entassement. Et puis surtout, on va les serrer le plus possible. Alors, grosso modo, il y avait trois façons de les disposer, soit tête-bêche, ou soit dos contre dos. Ça dépendait finalement des capitaines et des conditions sanitaires. Ici, on a un entassement plutôt qui ressemblerait à dos contre dos, avec les hommes qui sont menottés hein, aux pieds, et puis les femmes qui sont, elles, libres n'ont pas de circulation puisqu'elles sont quand même dans un espace extrêmement restreint.
Pendant 2 mois, ces personnes mises en esclavage voyagent comme ça dans l'entrecale ou est-ce qu'elles peuvent avoir accès à l'extérieur ?
Déjà, ce qu'il faut imaginer de la vie d'un captif à bord d'un navire négrier, c'est que la campagne d'achat peut durer entre 2 et 6 mois. Donc le premier captif acheté peut rester déjà à bord du navire entre 2 et 6 mois avant de faire les 2 mois de la traversée. Donc ça, déjà, c'est une première donnée. On comprend aussi les taux de mortalité quand on les étudie. Ensuite, quand le navire quitte les côtes, les hommes sont systématiquement enchaînés. Non pas les femmes, mais les hommes, et ni les enfants, évidemment. Et le capitaine décide d'enlever les chaînes à partir du moment où on rencontre souvent ça hein, dans les descriptions ou dans les rapports de capitaine ou dans les instructions des armateurs. Le capitaine décide à ce moment-là de déférer les hommes quand on ne voit plus la côte. Parce que la vision de la côte, pour eux, est un risque de révolte à bord. Puisqu'il y a encore un espoir parmi les captifs. Donc les hommes et les esclaves sont déférés au moment de l'éloignement le plus lointain finalement des côtes. Et alors se met en place une espèce de routine journalière où le matin, vers 9h, les esclaves montent sur le pont, reçoivent leur premier repas. Après, on confie certaines tâches de type nettoyage du pont, nettoyage de l'entrepont, nettoyage des bails, hein, qui sont les seaux de commodité. Puis parfois, on les fait un petit peu bouger. Et puis, il y a l'inspection du chirurgien de bord. On les lave. Le grand bain, c'est plutôt une fois par semaine, etc. Et la journée va se dérouler sur le pont jusqu'à à peu près 16h, où là, on va leur donner le deuxième repas. Et à ce moment-là, on les redescend dans la cale. Parfois, on peut les referrer quand on sent qu'il y a une tension à bord. Et puis, on ferme les écoutilles et on attend le lendemain matin. Donc, les esclaves vont passer une nuit dans l'obscurité, dans la moiteur et l'humidité du navire. Un navire qui bouge, faut imaginer qu'est-ce que ça peut être. Enfin, c'est presque inimaginable même. Et tout ça, bien sûr, quand il fait relativement beau. Puisque quand il fait mauvais, les esclaves restent systématiquement dans l'entrepont. Alors là, dans des conditions dantesques.
Il faut aussi s'imaginer que ces personnes, quand elles arrivent dans le bateau, elles ne savent pas où elles vont, pour combien de temps elles sont là, c'est ça ?
Oui, elles sont totalement perdues. De toute façon, elles sont dans un processus de déshumanisation. Hein. Donc elles ont déjà perdu une partie de leur identité, elles ont perdu leur nom. On fractionne les familles. Même si une famille peut se trouver sur un même navire, on va déjà les séparer. On va les séparer encore plus à la vente quand on sera à Saint-Domingue. Donc elles sont déjà dans quelque chose, comme disait Édouard Glissant, qui est du gouffre. Déjà on tombe, et c'est un peu le nom aussi de notre prochaine exposition, l'abîme. On tombe dans quelque chose là, voilà. Et ce quelque chose, c'est un processus déshumanisation. Et le navire négrier, c'est cette espèce d'espace concentrationnaire, de prison flottante, mais qui a aussi cette vocation finalement à détruire l'humanité. Faut vraiment pas l'oublier. C'est un processus qui va durer effectivement le temps de la traversée 2 mois. On arrive avec des esclaves aux Antilles qui savent absolument pas ce qui va se passer, qui vont changer de nom, qu'on va mettre en exploitation justement dans les plantations sucrières. Voilà. Donc ils sont véritablement perdus.
En près de 2 siècles, la France a organisé au moins 4220 expéditions négrières. Selon les historiens, notre pays a déporté au moins 1,5 million de personnes de l'Afrique vers les colonies. En Afrique même, de nombreuses victimes sont mortes lors de leur capture ou lors de leur marche vers la côte, avant même d'embarquer sur les navires négriers. Le nombre véritable des victimes de ce commerce criminel ne sera jamais connu. C'était Les Mémoires Vives, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Caron, réalisé par Aurélie Rodriguez et produit par Slide.fr. Pour aller plus loin, retrouvez les références citées dans cet épisode dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du musée à l'adresse châteaunantes.fr ou sur celui du mémorial memorial.nantes.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio ou sur vos plateformes de podcast préférées. Lecture: Alain Frachon, Lucas Désiré, Julie Ega, René Pareja.